midi 1. On s'ennuie de vous en fin de semaine. L'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102 avec Jeff Fortin, Pascal CV. 418-971-1021 pour nous joindre comme à l'habitude. Également blvd.fm pour nous écouter sur la web radio. L'essentiel des meilleurs moments de cette émission va se retrouver également sur le blvd.fm. Notre application BLVD 101 est disponible sur App Store et Android. Et également twitch.tv/blvd/fm. Ça nous fait un énorme plaisir d'être avec vous ce midi. Pascal CV qui a la broue dans le toupette parce qu'on essaye de trouver quelqu'un pour nous parler de la mère qui a été non criminellement responsable. On parle de cette mère de famille qui avait abandonné sa fillette. Premièrement, Pascal, comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi aussi? Mais
ça
c'est
va
vrai, là.
Super bien, mais c'est vrai que t'as la broue dans le toupette. Non, non, ça le cachera pas, t'as la broue dans le toupette.
Mais c'est mes moments préférés, ça, dans le métier qu'on fait. C'est
oui.
Quand il arrive quelque chose de dernière minute, quand on veut comprendre un phénomène, puis là, les experts sont un peu sa gâchette avec nous autres. Je pense que ça, c'est la qualité du métier de la radio.
Exactement. L'adrénaline que ça amène, c'est très, 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 très plaisant. Passez une belle fin de semaine d'entraînement pour le Kilimanjaro?
Oui, je suis dans mes dernières heures à pousser la machine au fond. Je dois commencer à mettre ça de moitié
cette
semaine.
Oui, c'est du repos après. C'est ce que Joanie m'expliquait tantôt.
La semaine prochaine, c'est du repos, c'est des marches, c'est des... bon, je peux aller au gym. En fait, je vais aller au gym quand même. Ça va être du petit poids, là.
Parfait.
Rien d'intense.
Mardi prochain, Joanie va venir nous voir midi 30. Avec toi, on va faire le tour du Kilimanjaro.
Extraordinaire.
Avant de passer au Caucus Yakarini, Pascal, justement, résume-nous cette nouvelle de dernière heure qui est sortie, c'est-à-dire la mère qui est reconnue non criminellement responsable.
Oui, je vais y aller avec de dernière minute même. Donc, dans le dossier de la fillette abandonnée, effectivement, sa mère vient d'être reconnue non criminellement responsable. C'est cette fillette-là qui avait été retrouvée, rappelez-vous, en bordure de l'autoroute après 3 jours d'intenses recherches. Il y avait des gens qui avaient peu d'espoir. Puis finalement, on l'avait retrouvée un peu sale, un peu, mais somme toute en forme, somme toute en bonne santé. Elle avait été prise en charge tout de suite. L'histoire était super nébuleuse. Cette femme-là qui était arrivée dans un genre de dépanneur-ish, j'ai perdu ma fille, je ne la trouve plus, j'ai pas mon cellulaire.
Ouais.
Finalement, des vidéos qui étaient sorties de la mère qui semblait être en total, malheureusement, débalancement, détresse là, avec sa petite dans les mains, puis qui avait posté ça sur ses réseaux sociaux, elle semblait faire des menaces à quelqu'un. Bon, vous êtes situé avec l'histoire, c'est dans celle-ci qu'on est ce matin. La Montréalaise qui a abandonné sa fillette de 3 ans, eh bien, elle a 34 ans et selon un rapport psychiatrique, elle souffrait d'un épisode de manie mixte avec symptômes psychotiques au moment des tristes événements. Donc, ce qu'on dit, c'est que ça l'empêchait de distinguer le bien et le mal. Et elle a été reconnue non criminellement responsable de négligence criminelle causant des lésions et d'abandon d'enfants à l'accord des parties. Là, en ce moment, ça fait que le juge Bertrand Saint-Arnaud a souligné ce matin au palais de justice du côté de Salaberry de Valleyfield que quiconque qui prend connaissance là, de toute la preuve puis du rapport psychiatrique très complet, très exhaustif, peut-être que convaincu qu'il s'agit du bon verdict à prendre. Alors, tu sais, je sais que ça va faire réagir, c'est très émotif,
c'est sensible. Ça fait toujours réagir.
Mais voilà les propos du juge actuellement. Puis là, la mère a indiqué à une policière, rappelez-vous, qui était sur les lieux, qui n'avait pas dormi de la nuit. Quand sa fille s'est levée, elle a commencé à préparer le déjeuner, elle chantait, elle dansait. Puis soudain, c'est là, elle a eu la peur de quelque chose, paniqué, puis elle est partie avec la petite, le chien, en auto. On va en parler un peu plus tard dans le bulletin de nouvelles, mais ça vient de tomber.
Merci beaucoup, Pascal. On va également parler dans le bulletin de nouvelles de Dominique Laroche, cet ex-skieur acrobatique, ex-vedette à Québec, qui va demeurer incarcéré. À la météo, c'est 20 degrés, les amis, 23 degrés ensoleillés. Au maximum, et c'est du soleil pour toute la semaine avec des 25 et des 26 degrés. On a une superbe semaine!
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Yaccarini.
Antonine Yaccarini, passe un beau week-end.
Très beau week-end.
Ouais, excellent. Parfait, parfait. C'est toujours le fun, les week-ends. Moi, j'ai passé ça full football le samedi parce que j'ai annoncé les Titans du Cégep Limoilou. C'est ma 16e saison en tant qu'annonceur maison des Titans. Ils ont gagné 36-10. Je vais contre les champions du Bol d'Or et je leur avais dit, savez-vous quoi? Je suis votre porte-bonheur, on va gagner.
C'est ça, il va devenir superstitieux. Là. Il va falloir que tu sois toujours présent.
Donc, ton fils a commencé à coacher
et
aussi.
Mon fils également, samedi soir, je suis allé le voir coacher ses petits Benjamins. C'était extraordinaire de le voir aller bientôt 18 ans pour Elliot, en train d'entraîner ses Benjamins, leur expliquer comment le football fonctionne.
Oh. Ah, t'as des étoiles dans les yeux.
Ah, écoute, j'ai eu des étoiles dans les yeux toute la soirée. J'en reviens pas à quel point il m'impressionne, à quel point c'est un bon garçon. Je suis très, 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 très fier de lui. Fait que j'ai passé la journée, dans le fond, au terrain Gérard Chiquette qui est situé juste en face du Cégep Limoilou Campus Charlebourg, également du Patro Charlebourg. J'ai été là de midi à 8h, donc pour de l'excellent football et... Moses, que je suis fier de mon beau Elliot.
Oh, cute.
Ouais, exactement. Bon, on entre dans le politique et avec l'entrée à la Chambre des communes, est-ce que Pierre Poilievre va être fier de Mark Carney?
Fier de Mark Carney, je sais pas. Je sais pas s'il va être fier. Pas facile hein, pour Pierre Poilievre la rentrée parce non. que, ben, on pourrait dire que c'est facile dans le sens qu'il est toujours chef du Parti conservateur, son leadership n'est pas remis en question ouvertement. Il a été élu dans la circonscription albertaine là, très, très facilement pour refaire son retour à la Chambre des communes. Mais le problème pour Pierre Poilievre, c'est qu'il se fait beaucoup manger son lunch. Par Mark Carney.
Ah okay. Oui, Mark regarde les promesses électorales de Pierre Poilievre puis il dit tiens, je vais piger là,
ça?
là.
Ah, regarde, c'est une belle sandwich, je vais manger. Ah, tiens, je vais prendre ton petit jeu aussi. Donc, il ne reste plus grand-chose. Il n'y a pas un énorme terrain de jeu sur lequel jouer en ce moment, Pierre Poilievre. Je préfère la longue liste de ce qui a été repris, qui faisait partie des engagements des conservateurs, taxes carbone, baisse d'impôts, et même des thématiques très, très conservatrices comme les hydrocarbures, les grands projets, mettre en question les lois environnementales, encore cette semaine, on parlait qu'on allait probablement agir sur les libérations conditionnelles, thématique de la sécurité, de la justice, la loi et l'ordre, qui est vraiment très, très cher aux conservateurs. Donc, il ne reste plus grand-chose pour Pierre Poilievre. Et l'autre élément avec Pierre Poilievre, c'est qu'il y a comme une difficulté aussi de positionnement. Parce que l'année passée, il était premier dans les sondages. On dirait que la voie pour devenir premier ministre était toute dégagée. Et là, il se retrouve encore dans son rôle d'opposition. Et là, face à quelqu'un que c'est un petit peu plus difficile de trouver des critiques que Justin Trudeau, je pense qu'il doit beaucoup s'ennuyer de Justin Trudeau, Pierre Poilievre.
Il n'y en a pas beaucoup qui s'ennuient, mais lui, oui.
Et là, cet été, il y a quelques jours, semaines, l'annonce du Bureau des grands projets qui va être en Alberta. Tu sais, on fait plaisir à l'Alberta. Toutes les affaires que les conservateurs ne peuvent pas beaucoup critiquer. Puis Pierre Poilievre avait décidé de vraiment attaquer assez fort à ce moment-là à l'ouverture du Bureau des grands projets en disant « c'est trop long, c'est de la poudre aux yeux, c'est du spectacle, les libéraux vont pas assez vite. » Puis ça avait quand même soulevé des critiques parce qu'on se disait « ben là, qu'est-ce que les conservateurs feraient vraiment
de différent? »
Et on a l'impression qu'il a un petit peu ajusté son ton pour la rentrée. Donc, Pierre Poilievre, là, qui dit qu'il va... Ben, en fait, c'est un peu un classique, là, moi, qui ai travaillé dans des oppositions dans ma vie, de dire « on va être constructif, on va faire des propositions, on va pas s'opposer. » Pour s'opposer.
Oui, on l'écoute et on va écouter par la suite également Stephen McKinnon, leader parlementaire pour le Parti libéral du Canada. Vous allez voir, le Parti libéral du Canada emboîte aussi les oppositions là, avec le commentaire de M. McKinnon.
On travaille quand même pour améliorer les choses. Nous allons collaborer, qu'on voit des propositions positives et nous allons nous opposer aux propositions négatives.
Mauvaise journée pour le gouvernement, c'est une bonne journée pour l'opposition. Mais de façon croissante, les Canadiens jugent et estiment que le Parlement doit fonctionner, doit mieux fonctionner. Et le Parlement fonctionne mieux quand les partis collaborent.
Hey Antonine, une mauvaise journée pour le gouvernement, c'est une bonne journée pour l'opposition, mais les Canadiens veulent pas ça. Ils veulent l'unité canadienne face à Donald Trump. C'est essayer d'emboîter l'opposition pas à peu près ça de la part du Parti libéral.
Oui, exactement. Puis on sait bien que l'intérêt des Canadiens passe toujours avant les intérêts du Parti libéral
bien
du Canada.
Bien sûr, voyons ça, donc, c'est un peu clair.
Cela dit, il a un peu raison, Stephen McKinnon, qui est le leader parlementaire du gouvernement, quand il dit que les Canadiens s'attendent à ce que la Chambre des communes fonctionne. Parce que l'année passée, ça n'a pas été une grosse année en termes de productivité
en effet,
dans ce Parlement-là.
Ben, tes prorogations du gouvernement le 6 janvier avec la démission de Justin Trudeau.
Avant ça, blocage, paralysie, rien qui
fonctionnait.
C'est
vrai, à l'automne. Oui. Donc, ça fait pratiquement un an qu'on n'a pas voté de loi, dans le fond. Là.
Absolument. Donc, il y a eu une courte session parlementaire le printemps passé. On a passé quelques lois, dont la loi C5 sur les grands projets d'intérêt national qui a été passée à toute vitesse. Sauf que là, c'est la première vraie session. Par contre, le gouvernement est encore minoritaire. Donc, il va avoir tractation. Ça ne va pas nécessairement toujours avancer comme M. Carney le voudrait. Par contre, je pense qu'il n'y a aucun parti qui a vraiment envie de partir en élection dès maintenant, les Canadiens non plus probablement, même si c'est un petit peu plus chancelant dans les sondages de la lune de miel pour Mark Carney. Et la grande occasion pour les conservateurs et le grand risque pour Mark Carney, ben, ça va être le fameux budget. Parce que là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu un vrai budget.
En effet.
La dernière fois qu'on a eu un semblant de budget, en fait, c'était une mise à jour économique. Puis finalement, Chrystia Freeland a démissionné la même journée. Puis ça a comme... on n'a pas trop regardé la mise à jour.
C'est ça.
Donc, on s'attend. Il y a un institut qui fait du monitoring sur les annonces et qui estime, là, c'est l'Institut City Hall, estime qu'on va être dans des déficits autour de 100 milliards
de dollars. Ça, par exemple, les conservateurs ne pourront pas appuyer ceci.
Bien, c'est ça. Parce que les conservateurs ont dit on va être constructif, on va appuyer certaines choses. Mais le budget, c'est pas possible.
100 milliards, impossible. Qui va l'appuyer, NPD?
Bien, bon, le NPD sont pas beaucoup. Donc, ce n'est pas un poids très important.
Mais ça peut quand même donner la majorité.
Mais ça peut donner la majorité. Et y a des bonnes chances que ce soit le cas, puisque le NPD n'a pas de chef en ce moment. Aucun intérêt.
Rappelle-moi le nom du chef par intérêt.
Don Davies.
Don Davies, oui, je le connais bien.
Oui. Je connais tous ses accomplissements par cœur.
Raconte-nous sa famille.
Bon, donc on enchaîne sur le prochain sujet. Et ce qui fait qu'il nous reste qui? Le Bloc québécois.
Oui.
OK. Donc, Bloc québécois qui a été un peu, pas accusé, mais disons, ça rendait un peu dubitatif le positionnement du Bloc face au gouvernement l'année passée parce qu'on négociait, on voulait pas faire tomber le gouvernement, on voulait absolument faire passer des projets de loi, notamment sur la gestion de l'offre, aussi sur des mesures pour les aînés. Et tellement que quand Mark Carney est arrivé... M. Blanchet a pris une posture de collaboration aussi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le PQ...
Si tu veux, on va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon critiquer le Bloc québécois.
On m'a simplement posé la question, est-ce que le Parti québécois n'aurait pas dû être plus présent? Vous n'avez pas assez intervenu, c'est timide, etc. J'ai rappelé qu'en fait, je suis intervenu plus souvent cette fois-ci que lors de la campagne de 2021, mais qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire si... l'orientation de la campagne et la stratégie appartient entièrement au Bloc, ne correspond pas à ce qu'on pense puis ce qu'on dit au Parti québécois, notamment la décision de commencer la campagne en disant que l'idée d'indépendance est suspendue pour la prochaine année et l'idée qu'on a hâte de collaborer avec Mark Carney et que Mark Carney, donc, va collaborer avec le Québec.
Donc ça, c'était au lendemain des élections. Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'était fait très critique de la stratégie du Bloc québécois et qui, justement, critiquait aussi le fait qu'on avait perdu un nombre de députés. Mais là, écoute bien, ça, c'est Yves-François Blanchette la semaine dernière.
Et je dis et je répète que les choix, les stratégies, le programme du pays à Québec, l'approche référendaire relèvent de la prérogative exclusive du Parti québécois, du chef du Parti québécois, et que je serai en soutien et que nous serons en soutien à vos choix légitimes comme formation politique souverainiste à l'Assemblée nationale du Québec.
Et là, Pascal Paradis avait été là au congrès du Bloc, avait parlé.
Tout va bien.
La famille s'est réunie, tout le monde est heureux. Mais là, si Paul Saint-Pierre Plamondon veut pas que le Bloc appuie Mark Carney et que le Bloc est à la solde du Parti québécois, ça veut dire que le déficit de 100 milliards, on n'appuie pas ça du côté du Bloc québécois.
On verra, mais honnêtement, la marge de manœuvre n'est pas si grande que ça. Parce que c'est sûr que le Bloc, dans un contexte de gouvernement minoritaire, va vouloir aller chercher des gains. C'est difficile de ne pas, j'ai envie de dire, c'est l'appât du gain politique parce que on veut aller chercher certaines choses pour pouvoir mettre sur ta liste d'accomplissement à la fin de la session puis dire on est allé chercher ça. Juste s'opposer, c'est pas un énorme gain non plus pour le Bloc. Mais l'élection pourrait venir plus vite que prévu. Et on verra, pour l'instant, Mark Carney est très populaire. Au Québec, encore très populaire
aussi.
Je sais,
c'est ce que je voyais dans les sondages.
Donc,
c'est peut-être même la province où il est le plus populaire.
Oui, donc...
Je cherche encore pourquoi, mais c'est ça.
Ben écoute...
Il y a un CV.
Il y a un CV, puis les gens, je pense, on dirait
et
que les gens veulent y croire.
Et là, on ne parle pas de Pascal CV. Oh,
on ne parlait pas de Pascal.
C'est humoriste. Pascal, je t'ai vu lever le poing dans les airs tout à l'heure. Et François Blanchette, c'est...
Il me fait toujours rire.
C'est venu te chercher.
Il est très théâtral dans ses prises de parole. Puis encore là, c'est quand il en fait. Je trouve qu'il a été un petit peu absent là, de la scène politique.
Absolument, très absent cet été. En même temps... moi, j'ai toujours tendance à conseiller aux politiciens de ne pas être là tout l'été pendant que les gens veulent être autour du barbecue puis, encore une fois, faire flèche de tout bois
politiquement. Ça, c'était stratégie à toi de dire...
Fais-toi d'oublier un petit peu.
J'ai l'impression que ça pourrait être agressant, sinon.
Ben c'est parce que... Ben, puis là, je trouve de nos jours que l'été, on n'a plus de break politique.
Oh, pas cet été, ça, c'est sûr.
Il n'y en a pas eu de break politique. Non. Mais en même temps, il faut que tu économises tes forces pour les moments qui comptent vraiment. Puis les gens sont fatigués, puis on ne faut pas pleurer personne sur le sort des staffers politiques puis des élus, je le sais. Sauf qu'une campagne électorale, c'est fatigant. Puis c'est pas une campagne électorale qui a si bien été que ça pour le Bloc. Donc, à quelque part, de prendre l'été pour se ressourcer, mais avoir une bonne session
aussi.
Après.
Ouais, c'est ça.
Une bonne rentrée parlementaire.
Pour se déposer aussi. Parmi les gens qui se font pas oublier, là, je change de sujet, c'est Karl Malenfant.
Ouais.
Je sais pas pourquoi on en parle souvent de Karl Malenfant. Attends, fiasco, satellite, 1,1 million. OK, parfait. Et là, Karl Malenfant va passer à la commission Galant aujourd'hui, mais il a donné des entrevues pour la presse. Ça, c'est assez particulier parce que Karl Malenfant, là, il se promène dans pas mal tous les médias, puis il donne son point de vue avant de passer à la commission Galant. Le commissaire, vas-tu le ramasser?
C'est ce qui se passe avec Karl Malenfant, qui est l'architecte de sa clique, de la transition numérique de la SAC, c'est qu'il considère qu'on lui fait porter le chapeau. Hein, il y a comme une espèce d'histoire qui est en train de s'installer où, quand on arrête de j'ai envie de dire, de regarder le petit ce qui brille au soleil, là, c'est-à-dire les ministres en difficulté, ça brille beaucoup au soleil. Mais quand on passe par-dessus ça, ce qu'on commence à remarquer, c'est que, premièrement, on a l'impression que la SAC a caché des choses à des gens. Puis d'ailleurs, quand il y a eu la perquisition, ils se sont battus pour pas que les documents soient donnés. T'sais, on a cette impression d'opacité.
7 millions de pages.
De pages. Ça va être le fun à éplucher et surtout, on risque d'avoir les résultats très bientôt. Et vous sentez ici le sarcasme. et en écoutant, en fait, Karl Malenfant veut se défendre. Donc, il veut défendre sa réputation. Il dit, c'est pas vrai que je vais me faire porter le chapeau. D'ailleurs, il était sorti pour contredire certaines choses que des ministres avaient dit, premier ministre avait dit, etc. En fin de semaine, gros dossier dans la presse, effectivement. C'est très long. Il y a comme 4 articles assez longs à lire, mais on comprend mieux la psychologie et l'approche de cette personne-là. Et ça vient donner des indices supplémentaires de comment le processus aurait pu se passer. Notamment, les files d'attente, là, les gens qui attendaient là, en 2023. C'est pas grave, ça.
Je te fais entendre Paul Arcand, cet effet-là, qui s'est exprimé dans la presse ce matin. Puis je veux entendre ton opinion par la suite.
On se déchire les veines, je le cite, parce que pendant 3 semaines, 1 mois, il y a eu des files d'attente. De toute façon, ajoute-t-il, il y en a toujours eu des files d'attente à la Société d'assurance automobile du Québec. On a eu une implantation difficile, j'en conviens, mais c'était pas la catastrophe ou la fin du monde. Donc, monsieur informatique regarde ça de sa tour d'ivoire, il voit les files d'attente du bon peuple, il y a rien là, c'est pas grave. Vous sentez dans les propos cette espèce d'arrogance, cette espèce de suffisance.
Fait moins 25... Les gens sont au froid, mais c'est pas grave. J'ai toujours eu des files d'attente.
C'est pas grave. Puis toi, tu veux, t'as besoin de ton permis de conduire ou t'as besoin de quelque chose de la SAC pour remiser ta roulotte, mais c'est pas grave.
T'as reçu un billet de contravention parce que ton permis n'était pas payé.
Ils ont le temps, le monde, là, de gérer
ça. C'est
ça,
vous avez pas.
Bon. On comprend des affaires, là. Honnêtement, c'est important, ces entrevues-là. Et bon, évidemment, il veut se défendre. Probablement aussi qu'il y a des choses importante, des pièces, des morceaux de puzzle qu'il doit donner, qu'on doit écouter. Je ne veux pas le décrédibiliser, mais on a quand même cette impression, ça me fait penser à un des premiers témoignages à la commission Galant où est-ce qu'on nous disait que ce n'était pas la fin du monde. Là. Un dépassement de 500 millions, là, ça n'empêche pas la Terre de tourner.
Le gouvernement a 146 milliards le budget. 500 millions, c'est quoi? Il n'y a rien là. Alors qu'on est plein de citoyens à travailler fort pour arriver à la fin du mois. T'sais, c'est ça qui est quand même assez épouvantable. Ça va être toute qu'une confrontation entre le commissaire Galant et Karl Malenfant, parce que Malenfant est déjà frustré de ne pas avoir nommé participant. Et là, si on se fie à ce qui arrive avec son dossier dans la presse, c'est que lui, il va arriver là avec ses grands sabots puis il va dire « Hey, écoutez-moi bien, si j'avais pas été là, ça aurait été encore pire. »
Probablement. Il voulait être participant, Karl Malenfant, parce qu'il voulait vraiment avoir un rôle actif dans la commission, ce qui était vraiment... aucunement justifié. Là. C'est sûr que lui, il se bat parce qu'il sent que le chapeau va être porté. Là. On essaie de lui mettre le chapeau sur la tête. Il se défend avec ses avocats, il se défend sur les médias sociaux, il se défend dans les médias traditionnels. À travers tout ça, bon, je pense que ça va être un témoignage très important cette semaine. Il faut rappeler que Maître Galant doit arriver avec un rapport d'ici la fin de l'année et que non seulement ça vise à savoir ce qui s'est passé, mais le but principal, c'est pas de faire rouler des têtes. Puis je sais que les gens sont, ils veulent...
On veut un coupable.
On veut un coupable et je le comprends. Mais il faut vraiment se rappeler de l'objectif en arrière de ça, c'est qu'on puisse dire plus jamais un fiasco informatique comme celui-là. Puis il y en a déjà qui sont en cours, là. Fait qu'il va en avoir d'autres. Mais il faut arrêter de toujours se remettre les mêmes pieds dans les mêmes plats. C'est des millions, des centaines de millions de dollars de notre argent. Et là, il y a un effet pervers. Puis moi, je veux lever un drapeau jaune à propos de ça. C'est que si on ne se donne pas des outils et si cette commission-là ne débouche pas sur des outils concrets qui permettent d'avoir des succès en informatique dans l'appareil gouvernemental, mais ce qui va se passer, c'est que les ministères, les ministres, les sociétés d'État vont toujours avoir les pieds sur les breaks pour les projets informatiques. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? On va se dire, ouf, ça peut peut-être attendre 2 ans, ce petit projet-là. Moi, je ne serai plus ministre, puis ça ne sera plus mon problème.
Ça
ne
tombera pas dessus. Ça
ne
va
pas finir en commission d'enquête.
Ça ne va pas polluer notre parti et tout ça. Puis même, je pense que ça pourrait, dans un angle mort supplémentaire, dissuader l'expertise, la jeunesse.
Aller
au gouvernement, qui veulent vraiment triper parce qu'ils vont se dire hey, on est un maillon faible, tant qu'à ça, on va aller travailler au privé ou à l'international avec notre expertise.
Et ce que ça va faire, en bout de ligne, c'est d'augmenter encore plus le retard de l'appareil gouvernemental en matière informatique. Donc ça, c'est dans l'angle mort. Il faut vraiment garder les yeux sur l'objectif. C'est sûr que c'est toujours plus croustillant les exécutions politiques publiques, mais si vous voulez vraiment qu'on arrête de gaspiller notre argent puis que le gouvernement arrête d'être tout croche en informatique, il va falloir se donner des outils aussi.
En effet, donc c'est pour ça que la date de décembre est très, 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 très importante. Parlant là, de sacrifier quelque chose ou de mettre un coupable à l'avant-plan, je veux te parler d'environnement parce que l'environnement s'est rendu le grand coupable des projets qui se font pas. On écoute François Legault.
Regarde ce que Mark Carney a fait. Il a enlevé la taxe carbone, il a enlevé les objectifs de véhicules électriques en pourcentage. Bon, évidemment, on parle pas de M. Trump. Québec peut pas être tout seul dans sa gang à dire « Nous, on est déjà les premiers en Amérique du Nord en environnement, puis on va en faire encore plus, plus, plus. »
On a une auditrice qui travaille en informatique au gouvernement qui dit « C'est déjà au ralenti pour les projets informatiques. » Et je comprends. C'est pour ça que ça prend un rapport rapidement. Il faut mettre les mesures en place. On revient sur l'environnement. L'environnement, c'est rendu que ça a tous les mots. Puis là, comprenez-moi, là, moi, je ne suis pas un extrémiste environnemental.
Non, moi non plus.
Mais je veux qu'on prenne soin de ma planète quand même. Puis je veux qu'on développe des projets d'économie verte parce qu'au Québec, on a toujours eu cette capacité-là avec justement l'hydroélectricité, maintenant les éoliennes.
Mais M. Legault le disait, on est déjà bon, mais faut arrêter toujours d'opposer économie et environnement.
Oui.
Puis ne rien faire aussi, ça a un coût. Et là, dans ce qu'on comprend dans les propos du premier ministre, c'est qu'on embarque dans le train de Carney. Parce que là, il se passe quelque chose au fédéral. Ben, il y a Mark, du bon là-dedans.
Je me trompe-tu? Mark est populaire, fait que je vais suivre ses traces. Peut-être que ma popularité va augmenter.
Ben, je vais en profiter. Puis en plus, ça me permet de... Tu sais, je veux dire, on va se dire la vérité, c'est emmerdant, ça, des lois environnementales puis des objectifs de réduction de gaz à effet de serre.
Trop compliqué.
Trop compliqué. Donc, on essaie un peu de profiter de ce momentum-là pour changer de direction en matière d'environnement. La CAQ, ça n'a jamais été la grande championne de l'environnement. Il n'y a personne qui va battre Québec solidaire, puis tout ça. Mais il faisait beaucoup de choses, discrètement, de manière très pragmatique. Beaucoup, on va miser beaucoup sur des mesures qui ne font pas suer le citoyen. On ne vous demande pas de changer de mode de vie drastiquement. On va commencer par électrifier. On participe à la bourse du carbone. Oui, vous avez un coût sur votre essence en bout de ligne, mais ce n'est pas comme la taxe carbone directement. Et l'argent qu'on va aller chercher avec ces redevances-là, on les met sur des projets de transition, décarbonation, etc., chez les entreprises, des innovations aussi qu'on va aller faire pour baisser les gaz à effet de serre. Est-ce qu'en ce moment, c'est moins à la mode? Clairement, avec l'abandon de la taxe carbone au fédéral et Éric Duhaime qui en fait un cheval de bataille.
Mon char, mon choix.
T'sais, la bourse du carbone, on n'en parlait jamais. C'était un petit peu du non-dit, etc. Mais là, que le gouvernement décide de juste en profiter à 100% pour vraiment baisser la garde puis reculer sur des acquis. Puis là, je parle à travers mon chapeau, je l'ai pas vu le plan. C'est l'impression qu'on a quand on écoute le premier ministre.
Si on écoute le discours de François Legault à Bernard Drinville, c'est « On a l'homme parfait en place pour faire en sorte que nos projets se frappent pas le nez sur les barrières environnementales et soient réalisés. » C'est ça le mandat de Bernard Drinville. Donc Bernard Drinville, il a le mandat d'enlever l'environnement dans le ministère de l'Environnement.
Tu sais, quand il avait été nommé ministre de l'Environnement, pas mal de gens qui ont fait des blagues avec « Lâchez-moi », avec les GES. C'est comme si le premier ministre l'avait pris au premier degré.
Ben, écoute, il a pris Cruella au premier degré.
Colin! Donc, ça, l'environnement, ça va être à surveiller. Parce que là, il y a comme un petit momentum où, effectivement, les gens sont moins là-dessus. Il y a un petit peu plus d'ouverture aux hydrocarbures, aux pipelines, etc. On le sent.
Parce que c'est souffrant comme, économiquement parlant. Fait que là, la priorité est clairement pas celle que les gens voient comme étant un peu moins pressante. Là.
Mais le gouvernement a aussi la responsabilité de faire de la pédagogie sur les coûts de l'inertie.
C'est ouais. tellement important, ça. C'est le point crucial ben oui. de raconter leur rencontre, d'expliquer pourquoi ils s'en vont là, pas juste imposer. Il faut qu'il y ait un ralliement derrière ces mesures-là et qu'ils ne soient pas automatiquement décatégorisés d'un programme intéressant.
Puis je sais que c'est pas super populaire, mais d'expliquer aussi les coûts de la crise climatique, ça a un coût. Là. Les gens, ils vivent les inondations, les canicules, les feux de forêt. Ça aussi, ça a un coût. Mm-hmm. Donc, je pense que le Québec peut aussi être un leader, pas juste embarquer tout le temps dans le wagon, là, poursuivre le gouvernement fédéral. On a de l'énergie propre en plus. On a des belles opportunités économiques. Donc, j'espère qu'ils vont trouver le bon équilibre, mais disons que j'ai des petites inquiétudes à ce niveau.
Pas de Nordvolt, on n'est pas là.
Ben c'est ça. T'sais, Nordvolt, Autobus Lyon, ces temps-ci, disons que si on a beaucoup d'exemples. On a l'impression que l'actualité fait en sorte qu'on se dit « Oui, ben ça marche pas. Là, tout pognant en feu. Littéralement, ouais. les autobus électriques pognant en feu. » Fait que on débarque.
Vendredi matin, c'était pas évident. On termine ce caucus Iaccarini qui est sur nos ondes du lundi au jeudi de midi à 12h30 avec François Legault. Va-t-il s'accrocher à la tête de la coalition Avenir Québec? Voici ce qu'il a déclaré sur les ondes du 98.5 à Montréal.
Bon. Ben, écoutez, d'abord, quand je regarde le contenu, là, ce sur quoi on veut travailler dans la dernière année, quand je regarde l'équipe que j'ai réunie, on est une coalition, hein, il y a des très nationalistes, très économiques.
Des fédéralistes.
Ben, en tout cas, disons,
il y en a quelques-uns.
Et pour qui l'économie, c'est la priorité. Et ben, je pense qu'il faut que je sois là pour être capable de tenir ça ensemble.
C'est lui le maître de « si tout le monde est main dans la main, c'est grâce à François Legault ». Pourtant, il me semble qu'il y a des cracks dans le CAQ.
Oui, mais en ce moment, on dirait que c'est la peste ou le choléra. C'est-à-dire que je suis un peu d'accord avec son interprétation. Vas-y ça peut donc. Avoir l'air un peu moi, mais c'est un parti politique qui l'a créé.
C'est clair.
Qui est articulé autour de lui.
Ben oui.
C'est des gens qui l'est allé chercher un après l'autre et qui sont réunis autour de certaines idées qui sont les obsessions de François Legault, économie...
Certainement pas le fédéralisme, par exemple. On a entendu cette petite hésitation.
Non, il en veut pas. Hein? Il en voulait pas le fédéralisme. Il disait des nationalistes puis des moins nationalistes. Donc, on voit son positionnement. Cela dit, il considère que si... En fait, ce que je dénote de cette phrase-là, c'est si je m'en vais, tout ça, ça tient plus. Là. C'est moi qui tiens tous ensemble. Je suis un peu le ciment, ce qui est pas complètement faux. Donc, il se fait toujours demander s'il va laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, le message que François Legault nous envoie présentement, c'est ça va-tu vraiment être mieux avec un autre? C'est pas un vote de confiance envers les successeurs potentiels qui viennent de faire là, le François
Legault. Plein, ça, et il n'a pas nommé de vice-première ministre, alors ça laisse présager qu'il veut encore avoir les deux mains sur le volant pour l'élection de 2026. Antonine Iaccarini, je termine le caucus Iaccarini avec Pierre-Luc qui écrit « Est trop bonne, Antonine, elle me fait changer d'opinion sur bien des sujets. » Ben moi aussi.
Ah! Fait que
bravo, Antonine. Merci pour tes excellentes analyses et chroniques. On apprécie grandement. Et on se parle demain midi pour le caucus Iaccarini.
À demain.
À demain. Entre-temps, on fait une courte pause. Par la suite, Hélanie Lepage, qui est l'ancienne attachée de presse de Bruno Marchand maintenant, candidate pour Québec fort et fier dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, va venir nous parler. Plan ambitieux de Québec fort et fier pour le quartier Saint-Roch. Revitaliser ce quartier-là. Et on va également faire le tour des manchettes avec Pascal CV. Et Pascal, tu nous as préparé un excellent dossier. Tu as parlé avec une femme prise dans un accident pour le moins rock'n'roll.
Oui, et moi, ça m'a particulièrement touché cette situation-là où il y a une femme qui, avec sa voiture, est restée coincée entre un autobus scolaire puis un poids lourd. Récemment, dans notre région, le poids lourd l'a ramassé de plein fouet. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y aurait pas eu le temps et où il n'aurait pas pesé sur le frein.
Ouais.
C'est encore nébuleux. On est en enquête. C'est une véritable miraculée. Puis là,
mais...
par le fait même, en étant placé là, sauver peut-être la vie d'enfant dans l'autobus scolaire qui était immobilisé à ce moment-là pour laisser sortir un jeune et prendre d'autres jeunes.
Oui.
C'est à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est en enquête, mais il nous a donné une entrevue. Je lui ai parlé ce matin. Il y a bien des choses qui ressortent de ça.
Entrevue exclusive pour sur Boulevard 102. Alors, c'est payant pour vous d'écouter l'émission On en jase le midi sur les ondes de Boulevard 102.